Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
T'as mis à l'essai, Germain, cette semaine, une berline qui connaît un gros succès sur le marché canadien depuis nombre d'années, la Volvo S90. Pourquoi?
Ah, c'est une excellente question. En fait, la réponse est toute simple. Je ne l'avais jamais conduite. Et de par notre métier, on se doit de conduire tout de la rare voiture compacte à la grande berline de luxe.
Bien, t'as compris que c'était un peu sarcastique.
Oui.
Parce qu'effectivement, c'est une voiture qui a d'innombrables qualités.
Absolument.
Mais ça connaît tellement pas de succès.
Non. Et pourtant, elle n'est pas moins pertinente. Et d'emblée, je tiens à préciser que lors de la dernière émission, j'ai parlé d'une berline suédoise et qu'à nouveau, je parle d'une berline suédoise. Promis, Antoine, ça ne se reproduira plus cette année.
Non, parce que Saab n'est plus là.
Non, c'est ça. Et l'année tire à sa fin.
C'est ça.
Donc, j'ai mis à l'essai la Volvo S90 dans sa version Recharge. C'est une version à empattement allongé qui en fait pratiquement une limousine. Hein. On a énormément d'espace, surtout à la deuxième rangée. Je te mets au défi de t'asseoir et de tenter de toucher les sièges à l'avant avec tes pieds. Il y a énormément d'espace. Énormément de dégagement. C'est confortable comme on peut à peine l'imaginer. Mais pour moi, la belle surprise de cette voiture-là, c'est la complexité, mais l'exécution de sa mécanique qui est effectivement très complexe. Donc, on a un moteur à 4 cylindres de 2 litres. Et là, j'y reviendrai, qui est turbo-compressé, suralimenté, avec la technologie hybride rechargeable. Oui, juste ça. Et
c'est ça.
Donc, on peut s'imaginer d'emblée quelles seront les factures d'entretien liées à ça. Je préfère justement ne pas les imaginer et me dire que le client moyen, quoi, va louer pendant 3 ans, redonner les clés et ça se terminera là. Donc, on a 400 chevaux, 472 livres-pieds de couple. C'est énorme. Ça répond très, très, très rapidement.
Ouais.
Et moi, je suis fasciné de voir qu'avec une cylindrée d'un format d'un contenant de lait, on arrive à avoir autant de puissance, à avoir autant de performance. Et je mets quiconque au défi de s'asseoir dans le siège passager à bord de cette voiture-là et d'imaginer qu'on a un si petit moteur. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé.
Oui. C'est vrai que cette voiture-là est impressionnante sur le plan technique. C'est vrai en même temps qu'il y a une complexité mécanique qui fait en sorte que les risques de bris ou de défaillance sont démesurément plus élevés que chez certains compétiteurs. Là, ça, c'est clair.
Sans même qu'il y ait un bris ou une défaillance, juste l'entretien préventif lié à ça, ça me donne des boutons. Je serais très inquiet, là, disons, face à ça. Je le disais, c'est une voiture hybride rechargeable. On peut parcourir 61 km en mode tout électrique. J'ai pas fait tout à fait ça, mais pas loin. Mais ça demeure décent comme autonomie 100% électrique. Et ce qui m'a amené au bout de 900 km, là, après 2 ou 3 recharges ici et là au cours de la semaine, à une consommation de 7,2 litres, ce qui est très, très, très peu. Et parlant de ce qui est très, très, très peu, c'est son prix. Parce que, et là, tu vas me dire, mais c'est une grosse berline de luxe, c'est cher, c'est dispendieux, c'est tout ce que tu veux. Oui, mais toute proportion gardée, c'est pas si déraisonnable que ça. Dans le cas de la voiture que j'ai conduite, on avait un prix de départ de 77 000 $ On a rajouté 10 000 $ d'options, ce qui n'est pas indécent pour une voiture de ce calibre-là, ce qui en fait une voiture là, de 87 000 $ Qu'est-ce qu'on a comme autre grosse berline européenne? On peut penser à la fameuse Mercedes Classe S, qui, oui, est un petit peu plus grosse. Oui, a une aura qui rayonne et qui brille assurément
plus.
C'est
une question de perception, parce que...
Oui, mais attends, regarde les prix. Parce que la Classe S, c'est 129 000 $ en prix de base.
Il n'y a rien, là.
En prix de base. Ouais. Et là, attends, il y a pire. Chez BMW, une série 7, le prix de base, encore une fois, c'est 150 000 $. Donc, est-ce que on a deux fois moins de viande dans une S90 Recharge que dans une berline allemande de luxe? Non.
Mais en même temps, la S90, bien qu'on l'ait allongée, qu'on en ait fait une version limousine qui est d'abord destinée au marché chinois, il faut le mentionner, parce que initialement, il faut savoir que la S90, lorsqu'elle est arrivée sur le marché sous cette forme-là en 2016, moi, j'avais pu la conduire avec un empattement régulier. J'avais nettement préféré, là, honnêtement, plus maniable, plus intéressante, plus belle aussi, parce que là, l'effet d'allongement me plaît plus ou moins. Et l'année d'après, on avait décidé de rapatrier la production de la voiture qui est destinée au marché nord-américain de la Suède à la Chine. Ce qui allait expliquer pourquoi, à ce moment-là, on n'était plus en mesure de fournir le marché nord-américain avec une berline à empattement régulier. Et,
Moi, vois-tu, la version allongée, je la trouve très élégante. C'est une voiture qui a une certaine prestance. C'est rien de on n'en met pas plein la vue avec cette voiture-là, mais elle est élégante. Et comme tu le disais, on en vend assez peu, ce qui la rend en quelque sorte assez exclusive.
Oui, oui. Mais dans les faits, la S90, c'est une rivale d'une série 5, d'une classe E, de ce genre de voiture-là.
Mais et dans une configuration allongée, ben on peut se permettre...
Oui, mais tu peux pas dire, je vais ajouter 3 pouces à l'empattement, puis ça devient une rivale d'une classe S. Ça prend plus que ça.
Mais en même temps, c'est la moitié du prix.
C'est la moitié du prix, effectivement.
C'est difficile à battre.
C'est moins cher qu'une Genesis G90.
Voilà.
Tu sais, qui est en réalité une autre rivale de cette voiture-là. Mais entre toi et moi... je prendrais une Genesis.
Ah oui?
Je prendrais une Genesis.
Ben, je t'avoue que je serais bien embêté. C'est certain que je sais que dans ce créneau-là, le logo qui brille, ça compte pour une portion des consommateurs.
De produit pour produit? Évidemment que c'est pas la même vocation.
Non, puis c'est pas la même technologie à bord. Non. La même technologie mécanique. On l'a dit, c'est complexe, mais en même temps, j'ai été un peu fasciné par cet ensemble mécanique-là qui, lorsque neuf, fonctionne très bien.
Oui, oui. Là-dessus, je te suis. Écoute, de mon côté, moi aussi, j'ai conduit un véhicule à empattement allongé, quoique un peu différent.
Mais toujours dans le luxe.
Le Land Rover, Range Rover, en version SE, donc en version, je peux-tu dire, de base?
Ben écoute, tout est en relatif.
Le grand Range Rover à empattement allongé. Et c'est assez particulier parce qu'on allonge le véhicule au niveau des portières et non pas au niveau de la soute. Ce qui veut dire qu'on...
Contrairement à un Cadillac Escalade, par exemple.
Oui, c'est ça. Alors, on gagne plus d'espace aux jambes à la deuxième rangée, mais pas... plus d'espace pour les passagers de la troisième rangée ou de la soute à bagages. C'est contraire à ce que les Américains vont faire, littéralement. Alors, c'est une stratégie un peu spéciale. Le point intéressant de ce véhicule-là, c'est qu'on a 4 roues directionnelles et ça tourne sur un 10 sous. On a sous le capot le moteur V8, qui est un moteur optionnel. Sinon, on peut avoir des 6 cylindres, une version hybride rechargeable aussi. Là.
Mais un moteur V8 différent de ce qu'on proposait auparavant.
Oui, parce que c'est un moteur issu de chez BMW. Avant, on utilisait le moteur, en fait, une déviation ou d'une dérivation du moteur Coyote Ford 5 litres qu'on installait un peu partout. Mais là, les normes ont fait en sorte qu'on s'est rabattu du côté de chez BMW pour aller emprunter le 4,4 litres biturbo qui fait 523 chevaux que vous allez retrouver dans un X5 notamment. Alors, c'est un moteur qui fait un travail exceptionnel. Évidemment, c'est un véhicule qui pèse 2700 kilos. Alors, toute une masse à déplacer. Ça remorque 3500 kilos.
C'est assez impressionnant, ça.
Oui, oui, c'est quelque chose. Là. Mais c'est un vrai camion très solide. On le sent quand on le conduit. Par contre, le véhicule que j'ai conduit, je vous le mentionnais, c'est une version... Bon, de base...
Avec des grands guillemets.
Toutes choses étant relatives, parce qu'on peut aller vers une version SV ou une version autobiographie. Et là, dans un contexte comme celui-là, ça part à 250 000 $ pour le modèle le plus luxueux. Et après ça, vous ajoutez les options.
250 000 $
Oui, exactement.
Et on n'est pas gêné d'offrir un véhicule si cher?
Mais non, les gens n'achètent.
C'est fascinant.
Quand même, hein? Mais le véhicule que j'ai conduit, qui avait quelques 30 000 $ d'options, incluant des roues de 23 pouces... On était à 177 000 $ et des poussières pour un véhicule qui n'avait pas de siège massant, pour un véhicule qui avait une banquette trois places à la deuxième rangée, tout ce qu'il y a de plus traditionnel.
Et là, on peut penser que tu fais ta princesse, là, mais quand on paie une somme aussi élevée, c'est des commodités des qu'on s'attend
c'est ça,
à avoir
massants,
de série.
Tu as ça dans une Genesis de milieu de gamme. Là.
Voilà.
Un Range Rover à 177 000 $ quand tu as l'impression qu'il manque des options.
C'est un peu décevant.
C'est quelque chose.
C'est un petit peu décevant.
La finition est magnifique.
Oui.
La conduite, c'est extraordinaire. C'est un véhicule qui est très solide. Ça freine, c'est incroyable, malgré le poids. Mais il y a des craquements, il y a des bruits de caisse. Et ça, je trouve ça un peu inacceptable.
Ben, vois-tu, moi, j'ai conduit plus tôt cette année le Defender dans sa version, dans sa version 110 avec le moteur V8. Et effectivement, des craquements et des bruits de caisse, j'en avais entendu, j'en avais ressenti. Et ça m'avait un petit peu fatigué, là.
Mais je t'avoue que à la conduite du Range Rover, et je conduirai prochainement le Range Rover Sport aussi, de nouvelle génération, Je suis plus un amateur des Land Rover que des Range Rover.
Donc, plus dans l'aventure et le tout-terrain d'avoir des véhicules, des vitrines de luxe. Là.
Ben des vitrines de luxe puis des véhicules, je veux pas dire un peu plus motivus, mais...
quand même un petit peu.
On joue la carte de la bourgeoisie davantage avec un Range Rover qu'avec un Defender. Et la conduite du Defender me plaît, la position de conduite, l'image que ça dégage me plaît davantage. C'est moins... on peut-tu dire fraîchier? On peut le dire, ça en radio, ça se dit.
Je pense que oui.
C'est moins fraîchier qu'un Range Rover. Et puis, j'ai pas le choix de te dire que je me faisais énormément regarder et j'avais... Sans dire que j'avais un malaise à conduire ce véhicule-là.
T'étais pas 100% à l'aise.
J'avais le syndrome
plus.
De l'imposteur. Alors qu'à bord d'un Defender, qui peut offrir le même niveau de performance, le même niveau de luxe, évidemment, t'auras
pas... Tu l'assumais un petit peu
plus,
le Defender.
Je l'assumais beaucoup plus. Alors, rendu là, c'est une question de goût, c'est correct, mais personnellement, j'aime mieux le côté un peu plus traditionnel de Land Rover que cette direction qu'a pris Land Rover avec les produits Range Rover.
Qui visiblement plaît à une part de la clientèle.
Ah, ben c'est clair, là, ça c'est correct.
C'est très personnel.
Ça demeure un véhicule très impressionnant, le Range Rover, et un véhicule à battre pour certains manufacturiers, parce que pas besoin de te dire que du côté de chez Cadillac, avec l'Escalade, on cible notamment le Range Rover. Jeep, avec le Grand Wagoneer, l'a dit publiquement. Voilà le véhicule qu'on cible comme principal concurrent, sans nommer l'Escalade. Bon.
C'est prétentieux un petit peu, ça. On va pas se le cacher.
Mais on en vend des Grand Wagoneers, soit dit en passant. Hein?
Oui,
les ventes
sont
plus impressionnantes que ce à quoi je m'attendais.